Chapitre 9. Quand j'entendis le bruit bien connu de la clé tournant dans la serrure, j'eus un serrement de cœur. En même temps, m'envahirent le désir de m'élancer au-devant de mon père et celui de m'enfuir en toute hâte. Ma terreur s'accentua quand son pas lourd retentit dans le corridor. Il se dirigea droit vers la salle à manger, où j'étais installée depuis un quart d'heure. Je me levai à son approche, et comme il entrait, je lui criai, ramassant d'un seul coup toutes mes forces désespérées. « Maman est partie !» Il marchait encore. Il s'arrêta brusquement, comme s'il était arrivé sans le voir jusqu'au bord même d'un abîme, et qu'il le trouva tout à coup à ses pieds. Je répétai sur un ton éclatant, avec un air de revanche, « Oui, elle est partie !»« Pour où ? » balbutia-t-il. « Je ne sais pas, » déclarai-je. « Mais pour longtemps ?» Elle ne me l'a pas dit. « Voyons, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? » fit-il impatienté. Je défilai mon chapelet tout d'une traite. « Elle m'a dit qu'elle s'en allait parce qu'elle était trop malheureuse ici, parce que tant Irma la déteste et qu'elle a réussi à te la faire prendre en grippe. Voilà ce qu'elle a dit, et qu'elle n'oublierait jamais ta cruauté, et que tu l'as traitée comme une misérable et que tu n'as pas de cœur. »« Tais-toi, » dit mon père. Mais pour me parler ainsi, il n'employa pas cet accent rude et bourru dont il se servait quelquefois. Non, il murmura ces mots d'une voix basse et navrée, et avec un air de supplication. Il s'était moins assis qu'effondré sur un fauteuil, et il respirait difficilement. Et j'eus soudain une grande pitié pour cet homme. Rentrait-il, le front chargé de menaces ou tout prêt à oublier ces choses mystérieuses dont il avait accusé ma mère? Je vis bien à son attitude que jamais il n'aurait imaginé sa maison vide. Je distinguais en un clin d'œil son désarroi, son incertitude, son angoisse. Ce père qui commandait, qui était autoritaire et souvent dur, ce maître, le voilà donc maintenant impuissant, écrasé, sans résistance, plus faible en vérité que moi-même. Alors Élise entra, et avec la familiarité des vieilles domestiques conservées longtemps dans la maison, « Madame ne va pas rentrer ?» nous demanda-t-elle. « Madame ne rentrera pas ce soir, » dit mon père. Il eut pour répondre un sursaut d'énergie, un air de très bien savoir où était sa femme, le même mouvement de dignité que j'avais eu moi-même quelques heures plus tôt. Mais Élise ne comprenait-elle pas ce qui s'était passé ? Peut-être en savait-elle plus long que nous. N'importe, nous protégions l'absente, et cela était en même temps très ridicule et très courageux. « Vous pouvez servir, » dit mon père. Élise apporta la soupe. Quand elle fut au milieu de la table et qu'elle répandit sous la suspension sa fumée et son odeur, papa me dit doucement « Il faut manger ». Mais il ne remua point et je ne bougeais pas davantage. Nous nous regardions et nous n'osions rien nous dire. C'était la première fois que maman n'était pas présente à un repas et que nous nous trouvions seuls ensemble, la première fois. C'était une chose terrible et nous aurions voulu ne pas y penser. Oui, mais le moyen. Comment ne pas regarder cette place vide entre nos deux couverts? Où était-elle, maman? Dans le soir profond d'été, dont la brise fraîche entrait par la fenêtre ouverte et errait autour de nous, comme si elle aussi cherchait quelque chose qui n'y était plus. Qu'il faut peu pour faire un passé d'un présent. Cela que nous tenions tantôt à bras le corps contre nous, cela maintenant s'est reculé aussi loin que mes premiers pas et mes premiers souvenirs. Mais si mes pensées sont chargées d'angoisse, que doivent être celles de l'homme qui est assis en face de moi et qui mêle à son désespoir une âcreté, une torture que je ne soupçonne pas, que je n'ai comprise que bien longtemps après. Il est là, avec sa barbe qui grisonne, avec ses yeux éteints, il ne parle pas. Par moments, il tourne la tête dans ma direction, puis son regard se perd, suit dans l'espace, au-delà de la fenêtre, quelque chose, une figure qui disparaît. Il remplit nos deux assiettes avec maladresse, c'était toujours maman qui nous servait, et quelques taches graisseuses parsèment aussitôt la nappe. Ensuite, il commence son repas. Mais non, il n'en a pas la force. Où mange-t-elle, à 7 heures, celle qui n'est plus avec nous? Je ne peux rien avaler non plus. Il me regarde et me dit « Petit, il faut manger ». Lui-même se force pour me donner le bon exemple. Il verse une cuillerée dans sa bouche et fait un effort pour l'absorber, comme s'il avait mal à la gorge. « Je n'ai pas faim, lui dis-je. Je repousse mon assiette. Je vois qu'il voudrait sévir, me forcer à avaler mon potage, mais il serait obligé d'en faire autant, et il n'a pas le courage. Il sonne. Élise entre, et familièrement, « Ces messieurs n'ont pas faim. Enlevez la soupe, fait mon père sans répondre plus directement. » On nous sert un plat de viande entouré de légumes. Papa coupe la viande. Tu vas me faire le plaisir de manger un peu. Mais la même comédie recommence. Quand la table est desservie et qu'Élise n'est plus là, nous nous regardons tous les deux. Je comprends bien que nous avons le même désir de nous jeter dans les bras l'un de l'autre, mais nous ne le faisons pas. Il y a tant de choses entre nous qui nous séparent, tant de choses que nous ne nous dirons pas, tant de choses que nous ne saurons jamais. Maintenant, ce passé renaît sous mes yeux, à mesure que j'écris. Bien des détails m'en reviennent. C'est comme un pastel très fin qui s'animerait lentement et remuerait un peu. Une poussière irisée se soulève autour de moi. Comme cela est triste et charmant. Les pires heures de ce temps lointain seraient exquises à revivre. Nous ignorions l'avenir et nous nous désolions. Mais l'air chaud est comme imbibé de fleurs de ce soir où maman était partie. Comme je le respirerais volontiers encore, oui. Et j'ouvre ma fenêtre pour chercher dans l'atmosphère de la nuit ce quelque chose de spécial que j'aspirais ce jour-là. Dehors, c'est l'ombre de l'automne qui pèse. Je la sens lourde et pénétrante. Elle sent la boue, la pluie, la fumée d'usine, le charbon. Elle entre comme une haleine fétide, comme une odeur de cimetière. Elle est serrée à la manière d'un crêpe, silencieuse, immobile. Il me semble qu'elle a toujours existé et qu'elle existera toujours, et que c'est la couleur même de ma vie, cette nuance indiscernable, opaque, terne, unie. Je suis seule et j'écris devant le feu. Je peux refermer ma croisée. Et de nouveau, le torrent des images se glisse sous mes yeux à demi fermés. Elles sont promptes et presque joyeuses. Elles sont pareilles à cette chanson plus vive qui, dans les marches funèbres, interrompt les dures et navrantes harmonies, martelées et plaintives. Et je revois la salle à manger, si grande ce soir-là, si sonore, où papa maintenant va et vient à grands pas. Soudain, il se dirige vers l'antichambre et reparaît avec son chapeau à la main, pris d'une décision subite. « Je sors. Où vas-tu ? Je vais chez tante Irma. » Alors tout ce que maman m'a dit d'elle revient à moi. Je me redresse comme un ressort et je m'écrie « Chez tante Irma, non, il ne faut pas y aller. Elle sera bien trop contente quand elle saura ce qui s'est passé. Tu auras bien le temps de le lui dire si maman ne revient pas. » Papa ouvre la bouche, mais je ne le laisse pas parler. « Vois-tu, papa, maman me l'a dit et redit, c'est tante Irma qui est cause de tout. » Je ne me rends pas compte du motif qui rend responsable ma tante d'un événement aussi éloigné d'elle, mais je ne le crois pas moins, et papa ne le comprend pas davantage. Pourtant, par la merveilleuse contagion de la foi, il le croit aussi ingénument que je le lui dis. « Tante Irma ne saura pas plus que nous où elle est, alors à quoi bon? Elle te dira du mal de maman. Est-ce que tu le supporteras maintenant? Vois-tu ? Si tante Irma, quand elle viendra ici, dit un seul mot contre maman, je m'en irai, moi aussi je m'en irai dans la rue. » Il n'est pas question de cela, dit mon père avec douceur. Personne ne dira du mal de ta mère, je te le promets, personne. Calme-toi, mon chéri, calme-toi. Et mon père quitte son chapeau. Il n'ira pas chez sa sœur, il y renonce. Je vois maintenant combien je suis plus fort que lui. Mais comment ne le serais-je pas? Aucun doute, aucun soupçon n'ont effleuré mon amour, ma confiance dans celle qui nous a laissés. Et puis, dis-je, il ne faut pas t'en aller. Qui sait si maman ne va pas revenir? Elle a voulu te faire peur, elle rentrera peut-être tout à l'heure. Tu crois? De quel ton naïf il me dit cela? A-t-il oublié la scène atroce de ce matin? Mais il n'a plus qu'un désir, que sa femme revienne, qu'elle ne le laisse plus si seul, si désemparé, avec ce pauvre gosse éperdu. Et nous voici, tous deux, enfantinement, prêtant l'oreille au moindre bruit. Plusieurs fois nous entendons sonner. La porte s'ouvre, se referme, des pas font retentir l'escalier. Notre cœur bat, nous retenons notre respiration. N'est-ce pas elle qui va entrer? Et chaque fois, c'est une désillusion nouvelle. Et nous retombons dans le désarroi, avec l'impression morbide que tous ces gens que nous ne connaissons pas se sont coalisés absurdement contre nous, pour nous ravir lentement notre chancelant espoir, en qui peut-être d'ailleurs n'avons-nous pas foi nous-mêmes. Petit, il faut aller te coucher. Comme mon père me parle avec douceur, jamais il n'a employé une voix aussi tendre en s'adressant à moi. Mais non, je ne veux pas me coucher, je resterai là, sur ce canapé. Pourquoi? Est-ce par caprice, par frayeur? Si maman arrive, je veux l'entendre de suite. Tu l'entendras aussi bien de ton lit. Non, et puis je préfère rester avec toi. Est-ce que tu vas te coucher? Plus tard, plus tard. Eh bien, moi aussi, j'irai plus tard. Il n'ose pas me contrarier. Élise a disparu. Un à un, les bruits de la maison se sont tus. Papa tourne toujours autour de la table. Je me suis pelotonnée dans un coin du canapé, accroupie contre les coussins. J'essaye de me persuader que maman va revenir, et aussitôt après, je me répète que c'est fini, qu'elle ne rentrera jamais chez nous. Et je ne sais pourquoi je revois le parc et le bassin aux cygnes, et ce jeune homme maussade et froid qui avait une canne à tête d'aigle. Est-ce lui qui l'a emmené? Et où? Ils s'en vont dans la nuit, tous deux, sous le ciel plein d'étoiles. Je m'efforce de me les représenter, je crois les voir, ils marchent à petits pas. Oui, je les vois. Mais pourquoi m'imaginais-je que le ciel était plein d'étoiles? Il est tout noir au contraire, et il pleut. C'est moi qui m'achemine à côté de maman. Elle n'a qu'un parapluie pour nous deux, et elle m'abrite avec difficulté. La rue monte, les becs de gaz, en allongeant leurs reflets dans la boue, y tracent de petits chemins dorés. Nous n'échangeons pas une parole. Nous entrons soudain dans une boutique. Des gens rangés y causent. Il n'y a point de comptoir ni d'objets à vendre. Beaucoup de femmes sont là, assises, et elles parlent toutes à la fois. Je n'entends pas ce qu'elles disent, mais je comprends qu'elles s'entretiennent de maman. Elles ricanent, et certainement elles disent du mal d'elle. Je veux la défendre, et j'ouvre la bouche pour protester, mais aucun son ne sort de mes lèvres. C'est une angoisse atroce que de se sentir brusquement muet. Je me retourne vers ma mère, étonnée de son silence. Je vois avec épouvante qu'elle ne m'accompagne plus. Je pousse un cri et m'élance au dehors. Elle court le long des maisons. Je me jette à sa poursuite pour la rejoindre, et comme hors d'haleine, je la rattrape. Je recule, terrifiée. L'être que j'ai suivi, que j'ai saisi par le coude, ce n'est pas maman que j'ai perdue dans la nuit pluvieuse. Je reconnais le commis de mon père, ce garnement qui ricanait toujours quand je quittais le bureau, comme s'il caressait le rêve de me jeter au bas de l'escalier. Il se réjouit de me voir et veut me prendre par la main. mais je m'enfuis au galop et je réclame maman à tous les échos. La rue est vide, il pleut, personne ne répond, et je marche au hasard dans une ville abandonnée. Je me suis perdue, je cherche ma route, je sais qu'elle existe, mais où? Et me voici dans ce quartier populaire où Élise m'a souvent conduit le soir. Je n'y vois pas la foule habituelle. Tout est morne, silencieux. Et comme j'ai peur, je cours éperdument à travers de longues avenues solitaires, de larges trottoirs boueux. Soudain, une ombre se lève. Elle est accroupie, elle grandit, elle est énorme. Je reconnais Tantirma, mais effrayante, le poing tendu. Elle l'abat, je roule à terre en poussant un cri, et quand je rouvre les yeux, je vois ceux de mon père qui se penchent anxieusement sur moi. Je suis toujours à la même place, sur le canapé, enveloppée d'un grand plaid écossais. « Dors, petit, dors !» murmure papa à mon oreille. « Et maman ? Elle va rentrer, elle va rentrer. » Je referme les paupières. Papa a repris sa marche de long en large. Son pas monotone et cadencé me berce. Cela fait un bruit régulier et lourd, un murmure de vagues. Et en effet, je me retrouve le long d'une corniche. Mais quel singulier paysage! Le lit de la mer est à peu près vide. À de gigantesques profondeurs, on aperçoit, en se penchant sur le parapet, de rares flaques pourrissantes ou des amas confus d'algues qui se dessèchent. Et de loin en loin, quelques formidables carcasses de monstres marins. Un cadavre de baleine échoué en train de se décomposer sur des pierres. J'ai l'impression que c'est la fin du monde, et en hâtant le pas, me voici soudain dans un parc assombri de grands arbres, plein d'une foule confuse qui bourdonne, chuchote, s'entretient à voix basse d'un événement que je ne connais pas et qui semble scandaliser chacun. Parmi tant d'inconnus, je distingue mon oncle Trémla. Comme il est vieux, voûté. Mais pourquoi a-t-il une tête d'oiseau? Oui, un crâne nu et blanc de héron à long bec. L'avait-il déjà quand je l'ai reconnu? Tout le monde s'écarte sur son passage, et je vois tout à coup Élise qui sort de la foule et le montre du doigt en criant « C'est lui, je vous assure que c'est lui qui est cause de tout. » Alors la foule se fâche, houle, tempête, hue mon oncle affolé. Quelqu'un s'approche, à cheval sur une presse à copier. C'est Monsieur Godfernot. « Vous allez me la rendre, » s'écrie-t-il, « vous aurez affaire à moi. Je suis un vieux guerrier. Où l'avez-vous caché? Répondez !» Mon pauvre oncle fait des gestes de dénégation, mais il a une tête d'aigle maintenant et se défend à coups de bec contre Monsieur Godfernot. Et tout à coup, je me rends compte que c'est moi qui suis sur la presse à copier. Elle tourne en rond, c'est un chariot maintenant, et il file à toute vitesse dans notre salle à manger, autour de la table dont je reconnais bien le tapis vert à dessins noirs filigranés d'or. Le chariot va plus vite encore, sa vélocité est effrayante. Je perds la respiration et appelle confusément au secours, mais je suis de nouveau seul, tout seul, entraîné par je ne sais quelle force démoniaque. Le cri que je pousse me réveille. Papa, qui était assis près de moi, se lève. Il me semble qu'il me passe quelque chose de blanc sur les yeux. Allons, petit, il faut te coucher. Et toi? Moi aussi, c'est absurde de passer la nuit ainsi. À quoi bon? Mais la nuit d'été est si courte. Je vois le suaire de l'aube s'étirer à travers les fenêtres, comme pour emmailloter le cadavre de la nuit. C'est quelque chose de vide, de pâle, de terne, une lividité égale, triste et froide. Et docile, épuisé, les membres rompus de courbatures, je suis mon père, qui, chancelant, et voûté, me conduit dans ma chambre.